8 septembre, il y a une journée de l'alphabétisation. C'est donc une journée internationale. C'est une journée qui a été décidée par les Nations Unies, plus précisément par l'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation, de la science et de la culture, puisque l'alphabétisation a évidemment à voir avec éducation. Hein? Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait une journée? Il y a aussi une journée pour le droit des femmes, peut-être que vous le savez. Alors, il y a des tas de journées, journée de lutte contre la pauvreté, peut-être bientôt la journée des gens de moins d'un mètre 65, des gens qui ont les cheveux roux, des choses comme ça. Hein? On pourrait s'en moquer, mais c'est important parce que c'est pour défendre un droit. Et le droit à l'alphabétisation, on considère que c'est un droit fondamental. Comme c'est les Nations Unies, cette journée a lieu donc dans le monde entier et donc évidemment aussi dans notre petite Belgique et particulièrement dans notre Belgique francophone, c'est-à-dire les gens qui vivent en Wallonie et les francophones de Bruxelles. Alors qu'est-ce que c'est l'alphabétisation? Bon, ça vient d'alphabet, hein, et donc alphabet vient des deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta. Alors l'alphabétisation, c'est apprendre ou réapprendre les bases de la lecture et de l'écriture. C'est avoir des connaissances dont on a besoin dans un monde qui va de plus en plus vite. Et c'est un droit fondamental de la personne. J'insiste donc sur cette notion de droit et j'y reviendrai d'ailleurs. Commençons par l'inverse. Alphabétisation, alphabétiser, alphabète. Le contraire, analphabète. Et donc une personne analphabète, cela veut dire que cette personne n'est pas capable de lire ni d'écrire seule en le comprenant un texte simple lié à sa vie de tous les jours. Dans cette salle, j'ai pas besoin de le dire, mais j'ai l'habitude de le dire quand je fais des, quand je parle de l'alphabétisation à l'extérieur. Les analphabètes ne sont pas bêtes. Le fait de ne pas maîtriser la lecture et l'écriture, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire. Au contraire, des analphabètes savent parfois faire beaucoup plus de choses que des professeurs d'université et même savent manier la langue. Je vais en donner trois exemples tout à l'heure. Tout en sachant qu'en 2013, on est environ 7 milliards d'habitants sur la Terre, il y a 773 millions d'analphabètes dans le monde. Et il y en a beaucoup plus, évidemment, dans les pays pauvres. Je vais en parler tout de suite. Vous voyez, c'est en 2007, parce que maintenant, avec la modernisation, les cartes plus récentes sont interactives. Donc, on ne voit pas vraiment la situation mondiale. Mais donc, vous voyez, la Belgique est ici, quelque part, voilà. Tout ce qui est en plus foncé, c'est là où il y a le plus de gens alphabétisés. Tout ce qui est en plus clair, c'est là où il y a le moins de gens analphabétisés. C'est là où il y a le plus d'analphabètes. Et vous voyez d'ailleurs, notamment cette partie-ci avec le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, qui sont des parties où il y a peu de gens alphabétisés. En Belgique, une personne sur 10 est analphabète. Pourtant, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans en Belgique. Hein. On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'une personne sur 10 est analphabète? Par contre, au Niger, région dont je parlais tout à l'heure, 7 personnes sur 10. Alors, je vais donner les trois exemples dont je parlais tout à l'heure pour dire que quelqu'un d'analphabète n'est pas bête et quelqu'un d'analphabète sait manier la langue. Alors, je prends une région qui est la première, qui est l'Arabie. Hein, cette région-là, c'est maintenant l'Arabie Saoudite. Avant, tous ces pays-là n'existaient pas. Hein, l'Irak, l'Iran n'existaient pas. Et il y a environ 3000 ans, les peuples qui parlaient de tribus arabes, pourquoi est-ce qu'à l'origine c'est ça? Pourquoi est-ce qu'on disait Arabi, tribu arabe? Parce que ça voulait dire celui qui parle bien, celui qui est éloquent, celui qui s'exprime bien. Et pourtant, il y a 3000 ans, la langue arabe n'était pas encore une langue écrite. D'ailleurs, El Coran, que ceux qui parlent arabe, pardonne ma prononciation, le Coran, quoi, ça veut dire récitation. Ça veut dire que le Coran, on le sait, a été raconté, a été dit, a été parlé, a été récité avant d'être écrit. D'ailleurs, la langue arabe s'est constituée vraiment après le Coran. On sait que les tribus arabes, les bédouins, faisaient, quand ils se rencontraient, des joutes oratoires, des concours de poèmes. Des représentants de tribus racontaient des poèmes aux autres tribus, des poèmes inventés par eux ou par leurs tribus. Premier exemple. Deuxième exemple, je vais maintenant en Afrique et en Afrique centrale, c'est le Mali. Donc tout ça, c'est environ à 5000 kilomètres de notre petite Belgique, et c'était aussi il y a des milliers d'années. Et un écrivain malien du XXe siècle, hein, Amadou Ampateba, c'est une phrase qu'on a répétée beaucoup, hein, il l'a dit d'ailleurs à l'UNESCO, hein, à l'Organisation des Nations Unies dont je parlais tout à l'heure, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a une tradition orale très forte en Afrique et encore aujourd'hui. Amadou Mpateba, c'est donc un écrivain. Il a écrit L'enfant Peul. Les Peuls, c'est un peuple d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique occidentale. Et dans L'enfant Peul, voilà un petit extrait, hein, quelques lignes que je vous lis. À la belle saison, on venait le soir à Kéretel pour regarder s'affronter les lutteurs, écouter chanter les griots musiciens, entendre des contes, des épopées et des poèmes. Si un jeune homme était inspiré, il venait chanter ses improvisations, on les retenait de mémoire, et si elles étaient belles, dès le lendemain, elles se répandaient à travers toute la ville. C'était là un aspect de cette grande école orale traditionnelle où l'éducation populaire se dispensait au fil des jours. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit, c'était là la grande école orale traditionnelle, pas de langue écrite, pas de lecture ni d'écriture, où l'éducation populaire se faisait au fil des jours. Et j'ai mis en gras éducation populaire parce que j'insiste là-dessus. Éduquer, l'origine d'éduquer, c'est conduire hors, c'est guider, c'est élever. Populaire, ça vient de peuple. Et le peuple, c'est qui ? C'est vous et moi. Le peuple, c'est des gens qui n'ont pas le vrai pouvoir économique et financier. Le peuple, c'est des gens qui ne peuvent pas influencer la masse de la population. Le peuple, c'est ceux qui n'ont pas le vrai pouvoir politique. Et puisqu'on parle d'éducation populaire, j'en viens maintenant à un leader populaire de chez nous. Enfin, c'est en Belgique. Ça ne vous dit peut-être rien parce qu'il y a déjà 16 ans, c'est Roberto Dorazio, en plus la photo est floue, aux Forges de Clabec, c'est une entreprise sidérurgique. Et donc c'est un gars d'origine italienne, évidemment, comme beaucoup de délégués syndicaux. Et qu'est-ce qu'il a dit en 1998, ce délégué syndical ? Il faut sortir les gens de l'habitude d'accepter les coups. Chaque fois qu'un travailleur s'est levé ou a élevé la voix, il s'est fait traiter de terroriste. Chaque fois, ils ont voulu nous habituer à parler bas. Moi, je prétends que le monde du travail n'a rien à cacher et qu'il peut parler haut et fort et librement. Donc, c'est ce qu'il a dit en 1998. Hein, donc. Alors, vous me direz, pourquoi alors s'alphabétiser ? Puisqu'on voit qu'un analphabète, c'est faire des tas de choses. Un analphabète, c'est même manipuler la langue. Et Roberto Dorazio n'est que le dernier, je dirais, un des derniers grands représentants d'une tradition syndicale. Bien que ne sachant pas manier la lecture et l'écriture, parfois même rien du tout, des ouvriers, des travailleurs savaient expliquer clairement aux autres les problèmes qu'il y avait dans l'entreprise, savaient les enthousiasmer, les encourager, les amener à manifester et à faire grève, savaient donc manier parfaitement la langue. Et donc alors, pourquoi s'alphabétiser ? Ben d'abord parce que c'est toujours un plaisir d'apprendre des choses nouvelles. L'être humain, en principe, est fait comme ça, il y a une espèce de jouissance à apprendre de nouvelles connaissances, à maîtriser de nouvelles connaissances. Et puis, je l'ai dit, c'est un droit. Et il faut se servir des droits. L'humanité n'a jamais progressé que parce qu'elle a réclamé des droits et parce qu'elle s'en est servie, parce qu'elle les a utilisés. Et puis aussi parce qu'on est obligé par le système. Parce qu'on n'est plus dans l'Arabie pré-islamique, on n'est pas en Afrique centrale et on n'est plus à l'époque où il y avait des usines avec 3000 travailleurs et beaucoup de gens où la communication pouvait se faire oralement. Aujourd'hui, on communique de plus en plus par l'écrit. Même si c'est par écran, hein, on communique de plus en plus par écrit, et donc on est de plus en plus obligé par le système de maîtriser la lecture et l'écriture. Je vais maintenant lire un passage, et j'en viens un peu au cœur de l'affaire, donc d'une formatrice en alphabétisation qui s'appelle Marilyn, et qui écrivait dans le journal de l'Alpha en 2013 en parlant d'un apprenant. Il était envoyé par le forum parce qu'il ne savait pas faire une lettre de motivation. On pourrait penser qu'avec un objectif aussi précis, ce serait extrêmement simple, mais c'était loin d'être le cas. Ce monsieur ne comprenait pas pourquoi il devait répondre à 2 annonces d'emploi par mois, alors que d'autres membres du groupe n'avaient pas les mêmes contraintes. Plus inquiétant, à mon sens, était que certains apprenants, en répondant aux exigences d'un contrat, perdaient un peu le sens de la recherche d'emploi. C'est au moment où nous avons commencé à lire les contrats avec les apprenants et à les comparer que des discussions et des débats ont commencé au sein du groupe. Information, prise de conscience, mais aussi débat de fond sur la réalité économique, le monde du travail, la crise actuelle, la vie, quoi. Et je crois que ça résume bien ce qu'est l'alphabétisation. C'est que l'alphabétisation, c'est de l'éducation populaire. C'est pour ça que l'alphabétisation répond à ça. On répond à certaines obligations. On n'est pas sur la planète Mars. Beaucoup d'entre vous, ici, sont venus parce que le Forum, l'ONEM ou le CPS leur a demandé. Et donc, il faut bien faire avec. Je dis, ou alors on est tout à fait à côté du système et on ne sait plus vivre. On dispense en même temps des savoirs, on donne des savoirs, on transmet des savoirs, on ne les communique pas. Et puis on va plus loin. Je dirais, on débat en groupe et comme elle le disait, on débat de la vie. Et donc, ce n'est pas l'alphabétisation, n'est pas la leçon d'un manuel scolaire. D'ailleurs, on sait ce que donne les manuels scolaires et ce que donne l'école traditionnelle jusqu'à 18 ans. Elle donne 10% de personnes analphabètes, une personne sur 10 qui ne maîtrise pas la lecture et l'écriture. Et c'est pour ça, vous verrez dans votre formation, pour ceux qui l'ont déjà suivi, ils le savent, et c'est pour ça que j'ai aussi ce micro entre les mains, c'est qu'évidemment, apprendre à lire et écrire, ça n'est pas seulement l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, les choses un peu emmerdantes. C'est aussi, par exemple, la radio d'Isabelle, c'est faire des activités autour de l'art et des musées, c'est les livres qu'on vous fera lire ou qu'on vous lira. C'est tout ça, l'alphabétisation. Et pourtant, cette éducation populaire, cette alphabétisation est mise à mal. C'est pour ça que le 8 septembre, hein, la journée d'alphabétisation, il y a une action lire et écrire. Lire et écrire, c'est l'organisation qui chapeaute un peu tout ce qui est l'alphabétisation en communauté française, pour les francophones de Belgique. Et le slogan de cette année, c'est l'alpha à les boules. Alors l'alpha, évidemment, c'est pour l'alphabétisation. Avoir les boules, ça veut dire, vous savez qu'en français, on utilise beaucoup d'images, en avoir assez, être très énervé, je ne vais peut-être pas faire le geste ici. Alors pourquoi est-ce que l'alpha a les boules? Pourquoi est-ce que l'alpha en a marre et est très énervé? Mais parce que, c'est pas récent, hein, mais c'est particulièrement grave aujourd'hui, les pouvoirs publics, c'est-à-dire la communauté française, la région wallonne, l'État belge en général, donne de moins en moins de moyens, de temps, et de moins en moins de moyens aux centres de formation et aux apprenants. Certes, on font déjà les frais ou on feront les frais, certains d'entre vous. Les formations sont de plus en plus courtes, alors que si les formations sont de plus en plus courtes, ça veut dire qu'on est plus dans le côté manuel scolaire dont je parlais tout à l'heure que dans le côté éducation populaire et vraie alphabétisation. L'alphabétisation, elle est du côté de la transmission des savoirs. Et la transmission des savoirs, c'est pas une leçon de grammaire ou de conjugaison. C'est aussi ça, mais c'est aussi un échange, un débat dont la formatrice parlait tout à l'heure, un échange de vie, d'éducation populaire. C'est, bien sûr, vos formateurs et vos formatrices vous donnent des savoirs, vous leur donnez des savoirs. La transmission se fait dans le temps. La transmission, elle a besoin de corps, elle a besoin d'être en groupe, la transmission des savoirs. Bien sûr, aujourd'hui, il faut apprendre le clavier et l'écran, c'est incontournable, mais ça n'est pas que ça. Alors, j'en viens à quelque chose peut-être d'un peu plus abstrait encore que j'ai essayé de faire très concret. Donc, en fait, lire et écrire, hein, donc cette action l'alpha à les boules qui va se dérouler à Bruxelles lundi, c'est qu'on est dans une période des pouvoirs publics dont je parlais tout à l'heure, c'est l'état social actif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire c'est très bien. Actif, c'est action, c'est se bouger. Hein. Plan Activa, activation des chômeurs, Actiris, centre public d'action sociale, maintenant plus d'aide sociale. Et pourtant, l'état social actif, ça veut dire, c'est contre l'état social qu'on a connu jusque dans les années 80. Ça veut dire qu'il faut aller de plus en plus vite, j'en parlais tout à l'heure. Les formations sont de plus en plus courtes. Et pour avoir des subsides, c'est le cas de la FUNOC, il faut des groupes de plus en plus nombreux. Et là aussi, si je reviens à l'école, des classes de 25 élèves, ils ne sont pas de mauvaise volonté, mais 25 élèves, comment voulez-vous éduquer, hein, élever, guider, conduire hors 25 élèves? C'est pas facile, c'est pour ça qu'à la FUNOC, on essaie d'avoir des groupes plus petits. Et donc cet état social actif, c'est tout le contraire de l'éducation populaire, c'est tout le contraire du vivre ensemble démocratique. Alors le vivre ensemble démocratique, ça peut sembler un peu pompeux comme ça, un grand mot. Et pourtant, c'est ce qu'on fait ici. C'est ça le vivre ensemble démocratique, c'est ce que vous ferez aussi en apprenant avec vos formatrices et vos formateurs. C'est de la politique au sens noble du terme. C'est pas de la politique de parti ou de politicien. C'est de la politique, c'est la maîtrise de sa vie, c'est la maîtrise de la vie ensemble. Et ça, c'est très politique. Et comme le disait Bertolt Brecht, qui est un écrivain allemand du XXe siècle, il n'y a de pire analphabète que d'analphabète politique. Donc maintenant, vous allez voir un film sur l'alphabétisation. C'est un film un peu particulier qu'Isabelle a choisi, mais qui est très bien, je crois, parce que ça parle de travailleurs qui sont en difficulté de lecture et d'écriture. C'est en Suisse, donc on dit que c'est un pays riche, hein. Et pourtant, il y a les analphabètes en Suisse. Et c'est aussi montré, c'est des travailleurs, donc c'est des gens qui savent faire des tas de choses, même s'ils ont des difficultés de lecture ou d'écriture. Je vous souhaite une bonne matinée, hein.